Le colloque s'achève, les rangs se sont déjà bien clairsemés, je vais essayer de pas être trop longue. Je vous ai fatigué de cette journée d'échange et de débat. Ce que je peux dire d'emblée, là je réfléchissais, que je me disais qu'aujourd'hui j'ai ressenti, et j'espère vous avec moi, tout le bénéfice, voire même la fierté, de notre inscription dans le courant de la psychanalyse intégrative. Pourquoi ? Parce que certes, c'est une approche qui reconnaît l'inconscient comme principe fondateur, c'est ça le mot qui m'a manqué moi chez Cyril, c'était le mot inconscient, mais qui reste ouverte à l'apport de différents courants théoriques et pratiques, et dispositifs cliniques aussi différents, on a vu individuels, groupes, médiation, etc., ainsi que des disciplines connexes à la nôtre. Deuxième point, en dehors d'être ouverte, c'est une approche évolutive. Et ça, c'est très important parce que on intègre les nouvelles recherches, ce qu'on pense être ses ennemis, comme les neurosciences, par exemple, au départ, en se disant tout est génétique, ils vont nous sortir ça à toutes les sauces, ben, on y va quand même. Et on pense aussi ce que les neurosciences peuvent nous apporter. Et toutes ces disciplines connexes, ces nouvelles recherches, elles viennent aussi irriguer, conforter, renouveler toute cette démarche de psychanalyse intégrative, et elles font de notre domaine et de nos objets d'études une matière avant tout vivante, faite par des gens vivants. Et si au final nous avons plus de questions que de réponses, tant pis. Grâce à Edgar Morin, nous savons que la complexité est un mot problème, pas un mot solution, qu'elle exprime notre difficulté à nommer de façon claire, à mettre en ordre nos idées, car c'est dans le brouillard que nous cherchons les clés, plutôt que de les chercher, comme Nasreddin, sous le lampadaire, parce que c'est là que c'est éclairé. Donc on a passé pas mal de temps à faire aujourd'hui des pas de côté. Qu'est-ce qu'on peut retenir des interventions sans aller trop loin? C'est que, déjà, si je reparle de Jean-Michel, déjà, la première chose, c'est que en parlant de la réussite qui est exacerbée dans la société de consommation, voire d'hyperconsommation, ce qui traverse finalement aujourd'hui la société occidentale et ce qu'on a revu aussi avec Roland Gori, c'est le lien fondamental. Ce lien fondamental, en fait, Jean-Michel nous l'a déjà donné à entendre parce qu'il est, et par l'émotion qu'il traverse quand il parle de ces sujets. Aussi, je suis émue d'ailleurs de dire ça, mais je pense que ce matin, on a tous été traversés par cette émotion. Via son lien à la fois intellectuel et affectif avec Max Pagès, qui nous redit à quel point la transmission est essentielle. Et ici, je pense que c'est important aussi, je sais qu'il y avait des enseignants, des éducateurs, des formateurs, et pas seulement des psys dans la salle, ça nous redit aussi dans la même lignée que ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'héritage doit rester vivant, en mouvement. Et c'est bien ça, quitte à critiquer, à remettre, à aller plus loin que ceux qui nous ont appris ou à en remettre en question certains des principes qu'ils nous ont enseignés. C'est le plus bel hommage, en somme, que l'on puisse leur rendre. Puiser en eux et continuer notre chemin. Donc avec Jean-Michel, on a souligné tout ce qui nous pose parfois problème dans le lien en tant que thérapeute, parce que on ne sait pas toujours donner ou donner de la tête ou du corps face à nos patients, à partir de cette multitude de signes que l'on perçoit. On a vu les défenses psychiques, les tensions musculaires, la bipolarité émotionnelle, les connaissances sociologiques, c'est-à-dire comment on va entrer, comment on va s'attaquer à ces problématiques qui sont données. Quel est le bon signe? Et là, ça rejoint un peu aussi ce que disait Cyril, comment on écoute en nous, comment on écoute en l'autre. Ça nous a aussi invité à adapter le cadre, le dispositif, les modes d'intervention auprès de chaque patient. Et c'est ça aussi être un intégratif, c'est adapter à ce qui est en face de nous, ce qui est là chez le patient et ce qu'on sent dans cette présence à l'autre. Donc, c'est pas avoir des façons de faire toutes faites ou des protocoles, c'est non, chaque fois, s'ajuster, s'adapter et se remettre aussi en question. Donc, travailler sur tout ce qui va s'actualiser dans la relation entre patient et thérapeute, bien sûr. On a parlé du champ inconscient commun tout à l'heure, mais aussi entre le patient et le groupe, par exemple. Et Jean-Michel parlait de la pulsion d'interliaison. Donc, c'est quand... quand Jean-Michel parlait du lien humain fondamental, j'ai repensé, Michael Randolph, qui n'est pas là aujourd'hui et qui nous salue, nous a fait l'honneur de nous envoyer une de ses dernières conférences en Bruxelles. Alors, c'est en anglais, mais il racontait en fait que quand il est parti de Toulouse, il y a une patiente qui finissait sa thérapie, c'était le sujet de Philippe aujourd'hui, la fin de thérapie, et elle l'a accompagnée sur le trottoir et lui a dit, en anglais, « I think this has been the most important meeting with anyone I ever had in my life. » Donc, je pense que ceci a été vraiment la rencontre la plus importante que je n'ai jamais eue dans ma vie. Et je pense que c'est aussi de ça dont on parle quand on parle du lien. Alors, il y a eu ensuite, Christophe Nievanomsky n'a pas pu venir, mais dans son travail de biographisation, au-delà de tout l'intérêt de ses recherches sur... la biographisation, ils appellent ça, hein, de ce jeune poète brésilien. J'ai surtout aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de liens avec ce que nous on fait. D'abord, c'était l'intervention peut-être la plus éloignée de notre champ a priori. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, en faisant ce pas de côté, on revient à nous, ça nous interroge, et du coup, quand on revient à ce que nous, on fait, la façon dont on travaille, eh bien, ça va encore nous enrichir, et on voit bien à quel point on a gagné à cette ouverture. Parce que quand on pense à ce jeune poète qui était dans les transports, coincé 4 heures par jour à Rio, et qui nous dit « tout ceci m'a aidé à trouver une forme, à préciser une frontière, à disposer d'un corps pour mon texte, en éprouver les limites », comment ne pas penser au cadre thérapeutique ? Comment et de ce processus de création qui a émergé dans ce bus, c'est vrai que ça nous évoque cette émergence créative et qui est bien loin de toutes les productions techniques dont parlait Roland Gori qui vont émerger en séance. Et puis ce gars, ce poète là, ce jeune, hein, parce qu'il est très jeune, il écrit, dessine dans un café et il nous dit quoi ? Ce café, il est à mi-chemin entre mon domicile et l'arrêt du bus. Quel bel espace transitionnel pour la création aussi. Donc, tout ce que ce matin nous a été apporté a permis de faire des liens et également ce qu'il dit sur la construction d'une identité réflexive qui passe par le moi, non-moi, par le montrer caché. Donc, en dehors de tout l'intérêt sociologique et sciences de l'éducation, puisque c'est sa spécialité, ça peut vraiment enrichir notre réflexion. De la même façon que le fait qu'on soit passé du online au offline pour revenir à du online, eh bien, ça repose dans les problèmes que posait Guy Tonella aussi quand il disait « rentrer par le corps, c'est pas la même chose que rentrer par le langage, notamment sur les traumas de l'attachement, et rentrer par Internet, c'est pas la même chose, et revenir dans le circuit, je dirais, marchand de l'édition, c'est pas la même chose non plus. » Donc, ce que ça nous invite à penser, c'est tous ces circuits, ces façons de faire, sur lesquels on a besoin aussi, nous, de penser. Et puis, bien sûr, l'identification des lecteurs, le fait de réenchanter le monde, Gori en a parlé également, et bien sûr, avec les élections brésiliennes, ça paraît d'autant plus d'actualité d'essayer de réenchanter le monde. Alors, avec Guy Tonella, là, on s'est senti plus chez nous, parce qu'on est sur des territoires plus connus, hein. Nous, ça nous parle, là, le psychocorporel, quelqu'un qui montre beaucoup à sentir, à ressentir, et évidemment, ça fait du bien aussi de sentir ça. Mais ce qui était justement intéressant, là, et un peu en décalage, c'est que c'est justement lui, spécialiste de l'analyse bioénergétique, qui fait le lien avec les neurosciences, nous parle des circuits et va effectivement nous permettre d'aller encore un cran plus loin parce que il nous a permis de repenser la question du traitement des traumas des relations précoces, mais et il a reparlé aussi de catégories qu'on connaît bien, nous les intégratifs, c'est-à-dire personnalité orale, schizoïde et les états limites dont Jean-Michel disait tout à l'heure qu'ils se développent vitesse grand V et qu'on travaille beaucoup notamment en groupe pour le coup avec eux, mais en faisant effectivement Moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'aurais eu envie de continuer d'abord parce qu'il n'y a pas eu, elle a pu aller très loin sur les chemins thérapeutiques corporels. Et ben, c'est temps tout simplement. Hein. On avait envie d'aller un cran plus loin. Et d'autre part aussi, il y avait toute la question. Là, on était sur les traumas des relations précoces, mais plus largement des choses aussi qui se présentent dans les traumas. D'autres types de traumas qui ne sont pas liés forcément aux relations précoces. Je pense au viol, je pense aux abus divers, effectivement, qu'on voit arriver aussi dans nos cabinets. Donc là aussi, ça fait lien et résonné. Ça a résonné aussi parce que nous savons que ce sont nos patients les plus limites qui nous invitent dans un lien fort, parfois envahissant, éprouvant aussi, et pas seulement éprouvé, qui nous demande une pleine présence puisque le thérapeute va se poser comme base de sécurité affective et base de régulation, comme il dit. C'est aussi cela qui nous amène parfois à ressentir colère et rejet, attaquant à notre tour le lien. Donc, bien sûr, ça a fait le lien aussi avec notre précédent colloque sur la place du corps dans la clinique du sujet et les ateliers. Avec Cyril Bertrand, on a effectivement s'est centré sur l'apport des neurosciences, mais avec les neurosciences affectives, et même si c'est un début d'esquisse et qu'on l'a un peu contraint par le temps, ça a été intéressant parce que il nous a amené à nous interroger sur la question de la posture du praticien, sur les effets inhibiteurs, par exemple de la prévalence de l'hémisphère droit dans l'accompagnement thérapeutique. Donc là aussi, toute une représentation qu'on a finalement de la relation thérapeutique qui gagne à s'élargir, à penser autrement. Donc c'est un risque quand même de penser, de travailler avec notre hémisphère droit qui, me semble-t-il, parle à chacun de nous, à chaque fois par exemple que nous préférons le lien avec nos chères théories plutôt qu'avec le patient qui est là. Il nous arrive de faire couple avec ces théories et d'oublier qu'il y a une personne qui est là et qui requiert justement cette pleine présence et cette pleine attention consciente et inconsciente. Chaque fois aussi qu'on laisse de côté l'accordage nécessaire avec nos patients les plus fragiles, mais aussi quand face à des défenses intellectuelles, on rentre nous aussi dans des compétitions intellectuelles. On veut être aussi malin, on veut être aussi intelligent. Donc tout ça, effectivement, et ce que Cyril aussi nous a apporté sur la mentalisation, nous nourrit, parce que il nous dit aussi quand même que la mentalisation, c'est quelque chose d'imaginatif. Et là, on a aussi la réconciliation avec, finalement, c'est un paradoxe en apparence, puisqu'on nous parle de mentalisation et de l'autre côté, plutôt d'imagination. Mais c'est bien le « et » dont parlait Jean-Michel ce matin. Il disait le « ou » est réducteur, mais non, la part de l'imagination dans la mentalisation, elle est importante aussi, puisqu'on est dans ce processus winnicottien et autres de co-création. Donc, il a parlé de rêver sans patient. Avec Bion, hein, on avait déjà beaucoup parlé de rêver le patient. Et donc, il nous a aussi amené à faire attention à notre hygiène de psy. Et ça, c'est important. C'est une question parfois épineuse et qui conditionne pourtant la qualité du lien. Enfin, avec Roland Gori, on a parlé des solitudes de l'homme numérique. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que tout en développant ce discours sur l'hyperconnexion et sur la perte de liberté, on a aussi entendu que cette hyperconnexion le privait du partage de la parole, mais aussi du regard et du toucher. Hein? Donc, c'est-à-dire, c'est aussi dans la dimension sensible que l'homme soumis à la machine, on pourrait dire, est aussi contraint. Et on perd aussi, de ce fait, le lien du sujet, le lien fondamental dont parlait Jean-Michel. On pense à Albert Camus, bien sûr, hein, dans « L'exil et le royaume », puisque les héros camusiens, ils sont confrontés à un dilemme qui est toujours solidaire et solitaire, solitaire et solidaire, et comment communiquer avec l'autre, avec le monde, et lutter contre l'isolement. Donc, je vais aller un peu plus vite pour... ce qui est intéressant aussi chez Gori, c'est quand il nous dit que l'homme du monde néolibéral dévoile son angoisse de séparation et l'extrême de sa solitude. Donc, il parle de ce monde parfaitement utilitaire. Et Michael Randolph, lui, dans la conférence qu'il a faite sur l'intelligence artificielle, c'était assez drôle parce qu'il dit, bon, après tout, nous, on est moins payés que les archis, on est moins payés que pas mal, que les médecins, etc. Donc maintenant, on va faire des séances par Skype. Et puis, on va s'apprendre 3 ou 4 en même temps des patients. Et puis, voilà, comme ça, on aura... nous aussi, on va aller dans une espèce de réalité augmentée. Et puis, économiquement, on retrouvera du statut qu'on avait perdu. Donc, bien sûr, ça nous a fait penser aussi à nos patients très connectés aux réseaux sociaux, aux sites de rencontres, qui cherchent à connaître leur part de marché, hein, leur valeur en tant qu'objet d'amour. Donc, nous avons eu, et vous avez, j'espère, éprouvé aussi toute la richesse dans les ateliers, hein, avec Christine sur le travail du lien et qui a montré que le lien à autrui était le centre de l'expérience groupale. Avec Stéphanie, corps en lien, corps lié, liens encore. Donc là, il s'agissait de comprendre face à la décorporéité, des contacts, la remobilisation du corps dans le transfert et contre-transfert, et puis réfléchir à nous-mêmes, effectivement, comment on travaille son propre lien au corps. Donc, bien sûr, c'est la suite de notre colloque, et ça me faisait penser à ce qu'avait dit Amselek la dernière fois en disant « Finalement, n'est-ce pas cet accordage charnel et affectif qui laisse surgir dans un corps à corps analyste analysant des bouts de la vérité du sujet et de sa désirance, en même temps l'espace d'un « je peux ». Avec Laure Hautefeuille, art thérapie et lien, on a réfléchi effectivement sur le rôle du tiers que crée l'œuvre entre le patient et le thérapeute. Elle s'est demandé si c'était un objet transitionnel, et vous sans doute avec elle. Et avec Philippe Henry, enfin, on a réfléchi, donné à penser aussi sur la fin de la thérapie, le devenir du lien d'attachement et la façon dont on se sépare. Alors on arrive sur le sujet, hein. Comment allons-nous nous séparer? Est-ce que nous avons créé des liens aujourd'hui via ces échanges? Alors pour finir, j'ai juste envie de rappeler que l'être humain se construit dans l'interaction avec les autres, et que la réalisation de l'autonomie subjective s'effectue grâce à l'altérité. Le vieux philosophe Gabriel Marcel, qui était déjà à contre-courant à son époque, disait « C'est dans le dialogue entre deux toi que l'homme se découvre et s'affirme comme personne. Le chemin de soi à soi passe par autrui. La vie authentiquement personnelle et coprésence. » Nous, psychanalystes intégratifs, nous éprouvons et pensons chaque jour cette coprésence psychique et corporelle dans notre pratique clinique, qui nous amène à accompagner des personnes qui, parfois, doivent couper des liens toxiques et en recréer d'autres, ou d'autres incapables de créer du lien et qui souffrent d'une extrême solitude. Nous sommes riches de la palette de nos dispositifs et de nos approches, et sensibles aux liens conscients et inconscients qui se tissent entre nous et le patient. Alain Delon disait « nous sommes des métisseurs ». Comme disait Biswanger, il n'y a pas un malade et un thérapeute, mais deux partenaires dans l'être présent, un être ensemble qui porte les possibilités de l'avenir. Donc éprouver et penser le lien, c'est s'opposer à la réification de la relation, de l'objet d'étude lui-même, au chacun pour soi, et c'est aussi remettre le lien en contexte, y compris économique, social et culturel. C'est aussi travailler le lien à soi-même, encore et toujours. Je remercie, pour finir, les intervenants qui sont déjà partis, sauf Jean-Michel, donc pour la qualité de leurs interventions, les animateurs d'ateliers, bien sûr, les Fabienne de Silès pour son exposition, la belle équipe d'organisateurs. Pardon, excuse-moi, Cyril. Pardon, Cyril, parce que c'était très intéressant. La belle équipe d'organisateurs de ce colloque, qui a pris beaucoup de temps pour créer les meilleures conditions, pour que nous puissions tous échanger. J'ai nommé Evelyne Portman, notre artiste, Geneviève Sabot, notre lectrice, Philippe Henry, Emmanuel Restivaux, qui nous fait à la fois la compta et l'animation. On a aussi Didier Duhazé, qui s'est montré très présent. Caroline Ulmer-Newhouse, dont j'ai déjà parlé ce matin, et Charlotte Paulet, qui est la dernière personne à avoir été agréée par la SFPI. On se réjouit de l'avoir arrivée. Merci à Jean-François. Il vient de partir parce qu'il a photographié au divan. À Karen Sylvestre aussi, qui nous a accompagnés sur la communication de ce colloque. Et puis surtout, merci à vous qui êtes venus passer cette journée avec nous. Bientôt, j'espère, sur notre site, les enregistrements et les podcasts. Et puis, pour nous rejoindre, si vous le souhaitez, vous trouverez toutes les informations sur notre site remanié. Voilà, à bientôt. Bonne fin de week-end, rentrez bien.